On va commencer les questions-réponses. Je vous rappelle de nouveau les règles. Donc, il faut vous présenter et éteindre vos téléphones, si vous pouvez, ou les mettre sous silence. On commence ici, à ma droite, avant d'aller à la gauche. On va donner aujourd'hui la parole à une femme pour commencer.
Merci pour la parole, Marie Amboya pour Télé 7. Ma question s'adresse au colonel Félix Prosper-Basse. Martin Kobler, le représentant spécial, a annoncé le renforcement de la coopération entre les casques bleus et les FARDC et les forces américaines dans la lutte contre la rébellion de LRA. Comment cela s'organise et à quand et c'est dans quelle zone? Merci.
Oui, merci. D'abord, il faut préciser que vous avez bien fait de noter que c'est un renforcement de cette coopération, parce que cette coopération existe déjà sur le terrain, parce que comme vous le savez, la LRA constitue une menace transfrontalière entre l'Ouganda, la RDC, le Soudan du Sud et puis la Centrafrique. Donc une force, un corps expéditionnaire est déjà mis en place et avec la participation des pays que je viens de citer, notamment l'Ouganda qui a mis 2000 éléments dans cette force-là pour traquer la LRA. Et un centre aussi de recueil et de traitement d'informations existe bel et bien à Dougou, où nous collaborons de manière très franche et de manière très fructueuse avec les Américains. Et vous n'êtes pas sans oublier que 100 éléments des forces spéciales américaines avaient été aussi déployés pour venir en appui à ce corps expéditionnaire qui est mis en place pour réduire à néant la menace que constitue l'armée de résistance du Seigneur. Donc cette nouvelle dynamique qui a été exprimée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est en train d'être non seulement étudiée, mais aussi d'être mise en chantier par des rencontres pour pouvoir, à terme, venir à bout de ce groupe armé qui est l'armée de résistance du Seigneur.
Ok, on prend une deuxième question ici à droite.
Alain Mouzi pour la télévision Sango Malamou. Monsieur le porte-parole, je reviens sur l'enlèvement de 40 femmes en Ituri qui serait l'œuvre de Mai Mai Simba de Morgan. Vous pouvez nous décrire les circonstances de ce kidnapping des femmes et où se trouverait-elle actuellement?
Oui, il faudra préciser que, comme vous le savez, depuis la mort de Morgan, son jeune frère a repris le commandement de ce groupe et l'a rendu beaucoup plus actif et opère toujours dans la région de Mambasa. Cette mauvaise nouvelle que nous avons apprise, évidemment, est survenue il y a quelques jours, donc dans cette région-là, et 40 femmes qui étaient vers la zone minière de Souma ont été kidnappées parce que, comme vous le savez, Mai Mai Simba est devenu beaucoup plus actif en vue de contrôler toutes les zones minières qui sont dans cette région de Mambasa. Il faut signaler que cet acte odieux a été perpétré à 170 km quand même au sud-ouest.
On fait des efforts pour est-ce que vous pouvez continuer?
Oui, donc je disais qu'il faut signaler que cet acte odieux a été perpétré, commis à peu près à 170 km au sud-ouest de Mambasa Centre. Donc 7 jours de marche à partir de Mambasa Centre pour accéder dans cette zone qui est quand même assez hostile et qui est difficile d'accès. Mais les troupes congolaises sont déployées, soutenues par la MONUSCO, pour traquer justement ces éléments Mai Mai Simba en vue de libérer les victimes et ensuite de réduire à néant les activités de ce groupe armé.
Merci. Une troisième question.
Oui. Welcome to DSS video conferencing. You are connected to UNSPV. Please enter the conference number followed by the pound key.
Vous pouvez aller.
Oui. Monsieur Nkiere Maï de l'agence congolaise de presse. Monsieur Yvon a parlé de l'insécurité qui fait rage au Nord Kivu et qui ne permet pas aux activités humanitaires de se dérouler. Le colonel Bass a parlé également de l'insécurité au Nord Kivu. Ma question est de savoir, depuis presque une année, bientôt, la brigade d'intervention est sur terrain. Quel bilan vous pouvez faire de cette brigade d'intervention? Et puis, comment expliquez-vous que tantôt vous parlez d'îlots de stabilité et tantôt d'insécurité? Est-ce que vous avez un bilan de cette brigade d'intervention qui est là depuis plus d'une année? Merci.
Est-ce que Ray Torres, vous avez écouté la question?
Oui, si vous m'entendez.
Oui, oui.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui.
Ah, très bien, très bien, très bien. Très brièvement, j'aimerais réagir sur cette question qui est très importante. Premièrement, sans nier le fait qu'il y a encore un nombre inacceptable d'exactions commises par différents groupes armés, je crois qu'il faut tout remettre en perspective. Nous avons une zone très importante dans le Rutshuru qui est désormais sous le contrôle du gouvernement. Nous avons dans le Walikale, qui, comme vous le savez, est un territoire très large, très vaste dans le Nord Kivu, un renversement de situation qui doit être souligné. Nous avions, il y a quelques mois seulement, 75% de ce territoire tenu par des groupes armés. Aujourd'hui, ils ne tiennent plus que 25%. C'est vrai, NDC-Tcheka continue de bouger, mais il ne bouge pas parce qu'il a envie de bouger, il bouge parce qu'il est sous pression, il est aux abois. Il ne contrôle plus le Walikale comme il le contrôlait avant. Et donc nous avons d'énormes secteurs, du territoire du Nord Kivu qui sont accessibles, qui ne l'étaient pas avant. Deuxième commentaire. Donc, j'aimerais rectifier cette image qui voudrait présenter le Nord Kivu comme étant à feu et à sang et personne ne peut bouger nulle part et personne ne peut faire son travail. Ce n'est pas correct. Deuxième point. Nous avons dit dès le lendemain de la victoire des FARDC sur le M23 qu'une opération militaire ne résoudrait pas le problème, qu'il y aurait encore des éléments. Je prends l'exemple des M23, mais c'est applicable à tous les autres groupes armés. Une opération militaire ne résoudra pas le problème de banditisme et d'insécurité dans le territoire du Nord Kivu. Ce doit être accompagné d'un nombre de mesures qui incluent le déploiement des FARDC, le déploiement de la PNC, le désarmement des communautés, hein, et tout un système dans lequel les communautés dans leurs ensembles vont participer de cet effort de pacification à long terme. Prenons l'exemple du Massissi, ou peut-être du Rutshuru. Vous dites que le Rutshuru est à feu et à sang. Il y a quelques jours, 600 réfugiés sont revenus de l'Ouganda dans le Rutshuru, parce qu'ils estimaient que les conditions de sécurité étaient suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont idéales, mais elles sont suffisantes pour reprendre une activité normale. J'aimerais prendre l'exemple du Massissi. Il y a quelques jours, le vice-gouverneur a déclaré le Massissi un territoire sans armes. Quelques jours à peine après, comme nous l'a dit le colonel Bass, nous avons un groupe de 9 officiers de Nyatura qui devrait être très rapidement suivi par le groupe nommé Delta, du colonel Delta, avec 80 Nyatura additionnels qui devront aider à pacifier une zone qui depuis 10 ans n'avait pas une seule botte FARDC ou PNC dans cet endroit-là. Je parle du groupement Katoi ou Famando, vous savez, des zones de Nyamaboko 1, Nyamaboko 2, qui sont très très difficiles. Donc, ce n'est pas fait, ce n'est pas fini, il y a encore des problèmes énormes de banditisme, il y a les Maïmaï Kifuafua qui sont là, il y a peut-être des FDC qui sont pas très loin. Donc, ce que je voudrais, c'est mettre les choses en perspective et dire non, la situation n'est pas idéale au Nord Kivu, mais elle est sans comparaison, sans commune mesure meilleure de ce qu'elle n'était il y a un an, avant les interventions robustes des FARDC avec l'appui déterminé de la FIB. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Ray Torres. Maintenant, on donne la parole à Scott Campbell pour le rapport sur l'opération Likofi contre les Kolunas. Scott.
Merci encore une fois, Carlos. Donc, c'est un rapport qui est publié conformément à notre mandat qui découle de la résolution du Conseil de sécurité 2147 et qui nous demande de faire des constats et de dénoncer des violations des droits de l'homme sur l'étendue nationale. C'est un rapport particulier qui vise tout d'abord d'attirer l'attention des autorités et le public sur les violations des droits de l'homme commises par la police nationale congolaise pendant l'opération Likofi. De deux, à formuler des recommandations afin de veiller que les responsables de violations graves des droits de l'homme commises dans le cadre de l'opération Likofi rendent compte de leurs actes devant la justice. Et troisièmement, et lié avec ce deuxième, c'est d'avoir un effet préventif afin d'éviter que des violations des droits de l'homme ne se répètent pas dans le futur. Aussi, le rapport a comme objectif de présenter une vue d'ensemble du droit en vigueur au niveau national et international en ce qui concerne le respect des droits de l'homme par les agents de la PNC dans le cadre de ce type d'opération. Et dernièrement, ce rapport aussi a comme objectif d'encourager un bon résultat de la commission d'enquête mise en place récemment par le gouvernement congolais pour enquêter spécifiquement sur ces allégations de violation des droits de l'homme commises dans le contexte de l'opération du Kofi. Donc, un petit mot sur notre méthodologie. Donc, les officiers des droits de l'homme des Nations Unies se sont entretenus avec plus de 70 victimes et témoins des violations des droits de l'homme, ainsi qu'avec des employés de centres de santé, des hôpitaux, des responsables de la police et d'autres personnes, tout dans le but de recueillir le plus d'informations possibles sur les allégations de violations des droits de l'homme dont ils avaient été informés. Seuls les cas confirmés et corroborés par plusieurs sources et selon notre méthodologie, la méthodologie de l'Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme, ont été inclus dans ce rapport. Donc, chose qui veut dire que le nombre de violations des droits de l'homme reprises dans notre rapport pourrait être beaucoup plus élevé, dans la mesure où des officiers de droits de l'homme n'ont pas été en mesure de vérifier plusieurs allégations pour les diverses difficultés, notamment d'accès à certains sites et de la réticence de plusieurs proches de victimes et témoins à donner les informations par crainte des représailles. Je vous donne l'économie juste des principales conclusions du rapport. Les enquêtes menées par notre bureau ont permis de confirmer des exécutions sommaires à l'encontre d'au moins 9 hommes, dont un mineur, dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, à savoir Bumbu, Selembao, Limete, Ngiringiri, Ngaliema, Lingwala et Kalumu, pendant l'opération Likofi. L'âge des victimes serait compris entre 17 et 30 ans. Et selon les informations à notre disposition, les exécutions sommaires auraient été commises par armes à feu. La majorité aussi des victimes auraient été tuées dans leur quartier et parfois même à la sortie de leur domicile. La deuxième conclusion principale, c'est que nous avons aussi pu vérifier 32 victimes de disparition forcée, dont 3 mineurs, pendant l'opération Likofi. Et ceux étaient commis dans les communes de Kisenso, Mongafula, Limete, Lingwala, Ngaba, Kalamu, Makala, Masina et Lemba. L'âge de ces victimes de disparition forcée serait compris entre 16 et 44 ans. Le modus operandi est globalement le même pour tous les cas et est semblable à celui des cas des exécutions sommaires enregistrés par notre bureau. Et donc la plupart des victimes auraient été interpellées. La plupart des victimes auraient été interpellées à leur domicile tard dans la soirée ou pendant la nuit par des agents de la PNC portant des cagoules, munis d'armes à feu et se déplaçant à bord de véhicules de type Jeep sans plaque de matriculation. Notre bureau a suivi des cas qu'il a documentés auprès de plusieurs autorités, notamment policières et judiciaires, tant au niveau national et local. À notre connaissance, il n'y a eu qu'un seul jugement rendu le 24 juin, condamnant un commissaire principal de police à 10 ans de servitude pénale pour enlèvement, arrestation et faux en écriture dans le cadre de l'opération Likofi. Nous estimons évidemment que la plupart des cas de violation des droits de l'homme donc n'ont pas eu de suite favorable pour les victimes ou surtout pour leurs proches, leurs familles qui ont porté plainte. Par contre, nous accueillons très favorablement la décision prise le 15 août 2014 par le commissaire général de la PNC de mettre en place une commission d'enquête qui a pour mission d'enquêter et de relever toutes les exactions qui auraient été commises dans le cadre de l'opération Likofi. Je termine avec les principales recommandations aux autorités, d'abord aux autorités congolaises. Une recommandation spécifique qui est des enquêtes promptes, indépendantes, crédibles et impartiales sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme commises dans le cadre de l'opération Likofi et de traduire en justice tous les auteurs présumés de ces violations, quel que soit leur rang. Et dans le même sens, encore une fois, nous saluons la mise en place de cette commission d'enquête par le commissaire général de la police. Nous encourageons un travail indépendant et crédible qui va jusqu'au bout et nous restons certainement à la disposition de cette commission d'appuyer leur travail. une deuxième recommandation qui est plutôt de nature générale à la PNC est de ne pas courir à l'usage excessif de la force lors des opérations de maintien de l'ordre et de respecter les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation d'armes à feu. Et cette recommandation, évidemment, sera de plus en plus importante dans le contexte préélectoral. Une troisième recommandation, aussi de nature générale, c'est d'accorder un accès libre aux magistrats des parquets, ainsi qu'aux officiers de droits de l'homme des Nations Unies, à tous les lieux de détention de la ville de Kinshasa, ainsi qu'aux différents centres de santé et hôpitaux de la ville, dont la morgue de l'hôpital général de référence. Et la dernière recommandation du rapport que je soulignerai est une recommandation aussi spécifique, et cette aux parlementaires, et c'est de ratifier dans les meilleurs délais la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Je vous en remercie.
Merci beaucoup. On va continuer notre séance de questions-réponses. On a fait trois questions ici à Kinshasa. Maintenant, on va à Goma pour la deuxième séquence de questions. Goma.
Allez-y. Non. Je suis Stanislas Nkambwe du journal Le Potentiel. Ma question s'adresse à Scott. Votre rapport note aussi la décision du commissaire général de la police de mettre en place une commission d'enquête pour faire des investigations en vue de relever toutes les exactions qui ont été commises en rapport avec cette opération de profit. Deux mois, jour pour jour, aujourd'hui, que cette décision a été prise, parce que semble-t-il, vous suivez cette situation-là de près. Y a-t-il des avancées significatives dans ce sens-là? La première question.
Une question, parce qu'il faut donner la chance aux autres. Oui. Allez-y.
Effectivement, la commission, elle a été créée sur papier le 15 août, donc il y a jour, deux mois, vous avez parfaitement raison. Nous avons pris connaissance tout dernièrement, et avec d'encouragement de cette commission. Donc nous ne savons pas aujourd'hui est-ce que cette commission a déjà commencé son travail et où ils en sont dans leurs enquêtes.
Allez-y.
Merci beaucoup. Je suis Christian Mapenano. Je suis freelance. Dans la lettre du ministre, il nous dit, de manière générale, il y a lieu de noter qu'avant le déclenchement de l'opération du COFI, le service avait constitué une banque de données sur les bandits appelés Kuluna. Même ici à Goma, il y a des chegues, mais vous allez constater que les éléments de la police, peut-être de l'armée aussi, se font passer pour des chegues pour opérer. Même cette nuit, il y a eu des cas d'un policier qu'on a attrapé en train de commettre des exactions, des gens qui sont censés sécuriser la population. Quelles leçons vous tirez de tout cela?
Bon, la leçon à tirer, je pense elle est assez simple. Il faudrait que la police elle-même, elle a la capacité de faire des enquêtes indépendantes et crédibles sur toute exaction, soit commis par un soi-disant Kuluna ou un Chege, soit par un autre policier, soit par une personne qui est effectivement agent étatique, mais qui n'est pas en uniforme. Et donc c'est plutôt un rôle général que la police doit jouer pour enquêter d'une manière indépendante sur toute violation, toute allégation de violation, chaque fois qu'il y ait crime ou violence contre la population.
Là, approchez-vous du micro pour qu'il vous entende, s'il vous plaît.
C'est Jérémy pour le compte de la radio Taïna Goma. Demain, c'est le 16 octobre, c'est la journée internationale de la résolution des conflits. Alors, je voudrais savoir dans quelle mesure la mission des Nations Unies va aider les Congolais à résoudre définitivement ces conflits qui ont été caractérisés la plupart des provinces de l'RDC. Merci.
Je peux répondre peut-être en prenant l'exemple du Nord Kivu. Je pense que le travail de la MONUSCO, l'essentiel, le cœur du travail de la MONUSCO, de la composante civile de la MONUSCO, c'est exactement ça. C'est-à-dire de comment pouvons-nous aider, accompagner le gouvernement de la province, mais aussi les communautés à résoudre ces conflits. Vous avez dit appuyer à. Je pense que c'est très important. Le rôle de la MONUSCO, c'est un rôle d'appui. Nous intervenons en appuyant le travail du gouverneur et de son équipe, mais aussi des Baraz Alawaze, du Parlement, des différentes communautés et des différents groupes en présence, force en présence, dans différents endroits, comme par exemple Masisi, Nyamilima, Kichanga, où il y a, comme vous savez, des conflits qui durent depuis très longtemps. J'ai l'impression, c'est une impression, hein, que ces derniers temps, il y a une reprise de conscience parmi tous ces acteurs de l'importance que les solutions viennent des Congolais, que les solutions ne peuvent pas venir de la MONUSCO. On peut appuyer, on peut faciliter, on peut fournir un appui logistique, mais les clés pour la résolution de ces conflits n'appartiennent pas à la MONUSCO. Je pense même que ce serait peut-être pas approprié pour la MONUSCO d'être celle qui propose des solutions. Les solutions doivent venir. Donc nous appuierons tout ce que nous pourrons, autant et pendant toute notre période de permanence ici au Nord Kivu, mais je le répète, les solutions doivent être des solutions congolaises. Merci.
Je ne pense pas qu'on ait le temps pour une question parce qu'on a 2 minutes. Ah oui, non, donc je profite pour dire au revoir aux auditeurs de Radio Okapi. On va terminer ici la conférence de presse pour la Radio Okapi, mais on va continuer parce que je pense qu'il y a des questions. Ok, on va ici à la gauche.
On va y arriver. Vous m'entendez? Bon. Juste une petite précision, vous dites que 32 personnes sont portées disparues. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles sont vivantes, mortes, ou est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Et surtout, une personne pour le moment a été arrêtée. La plupart des plaintes, vous dites, sont restées sans suite. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Merci.
Oui, effectivement, lorsqu'il y a disparition forcée, il peut y avoir plusieurs violations de droits de l'homme concernées par cette disparition, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas une réponse de l'État sur un cas individuel. Donc une personne est enlevée par des inconnus et qui a disparu sans trace. Effectivement, on est préoccupé par le fait que plusieurs cas, plusieurs plaintes qui étaient portées au niveau des différents différentes instances judiciaires à Kinshasa sont restées sans suite. Et même dans certains cas, il y a eu des différentes officiels de la justice qui étaient intimidés et qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre les différents cas qui étaient portés à leur connaissance. Donc effectivement, nous trouvons préoccupant cette situation où effectivement la justice n'était pas encore rendue pour la plupart des cas que nous avons documentés, et nous saluons donc la création de cette commission d'enquête, et nous allons y porter tout le soutien possible selon notre mandat.
Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions à Scott Campbell sur le rapport? Non, il faut aller à la gauche.
C'est Sylvain Kapuya pour le compte du Congo Nouveau. Ma question s'adresse à Scott Campbell. Monsieur Scott Campbell, il y a eu des exactions au niveau des Congolais de Brazzaville. Vous nous avez fait le rapport de ce qui s'était passé ici à Kinshasa. Et qu'en est-il de ceux-là qu'on a expulsés de Brazzaville jusqu'alors?
On n'a pas pu comprendre la question.
La question a été, on a fait un rapport sur les Koluna, mais il y a eu des Congolais qui ont été expulsés de Brazzaville. Pourquoi il n'y a pas de rapport sur ça?
Ouais, tout à fait. Bon, nous avons soulevé cette question à haute voix et par la voix de notre représentant spécial sur ces mêmes zones, je pense. Et à plusieurs reprises aussi, notre bureau de droits de l'homme a soulevé notre préoccupation directement avec les autorités brazzavillois. Il n'y a pas eu un rapport détaillé fait selon notre mandat, tout simplement parce que notre mandat ne couvre pas Congo-Brazzaville. C'est pour cela que nos interventions étaient plutôt basées à partir d'ici et qui étaient faites vis-à-vis et la voix public et surtout aussi avec des communications confidentielles avec le gouvernement brazzavillois.
Merci. Venant vous dire ça pour la RTNC, ma question s'adresse à M. Scott Campbell. Monsieur Scott, que répondez-vous à ceux qui estiment que l'opération Likofi est un mal nécessaire, car ça permet à certains Congolais de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes? Merci.
Merci. C'est une excellente question et je pense que beaucoup de monde se pose. Évidemment, la population de Kinshasa, la population congolaise, a droit aussi à la sécurité. Et évidemment, il y avait un problème au niveau de criminalité à la ville de Kinshasa qui était tout à fait inacceptable. Il fallait effectivement une opération ou des efforts par la police nationale d'effectivement maintenir, protéger la population civile. En même temps, il y a des normes, il y a des méthodologies qui doivent être respectées par la police en faisant leur travail. Il y a des principes de base qui doivent être respectés pour vraiment assurer la population que la police est là pour les protéger, pas de les arrêter, commettre des exactions graves d'une manière arbitraire, mais on est là pour les protéger et selon la loi. Donc, c'était nécessaire effectivement qu'il y ait une opération, mais la méthodologie utilisée était tout à fait inappropriée.
Merci beaucoup. C'est une question pour vous. Je dois donner la parole maintenant à ce monsieur parce qu'il est là depuis très longtemps.
Oui, merci Carlos. Je reviens encore, monsieur Campbell. Vous venez de publier les rapports. Est-ce que, comme d'habitude, vous avez fait un briefing au gouvernement pour qu'il prenne connaissance, parce que nous ne voulons pas, après cette publication des rapports, qu'il y ait encore quelqu'un qui passe dans les médias pour dire non, il y a eu ceci, cela. Est-ce que vous avez pris toutes ces dispositions habituelles pour que le gouvernement soit informé de ces rapports avant de la publier? La seconde préoccupation, c'est Mme Geneviève. Vous avez dit que le PNUD a accordé 430, si ma mémoire est bonne, millions d'aide à la CENI. Est-ce que le matériel qui a été donné à la CENI, c'est la totalité du fonds que la communauté internationale devait contribuer pour le processus électoral? Mais pourquoi la communauté internationale donne le matériel alors qu'elle avait conditionné son aide par la sortie d'un calendrier global qui diffuse, qui montre tout le processus électoral?
Merci de question. La première à Scott, la deuxième à Geneviève.
Oui, rapidement, il y a eu des échanges réguliers avec le gouvernement sur cette question depuis décembre 2013, des échanges et par écrit et en réunion, en discussion avec les autorités, donc ils sont pleinement informés de la situation et bien sûr le gouvernement aussi a eu la possibilité d'étudier notre rapport et faire ses commentaires avant sa publication. Donc le mouvement est parfaitement informé du contenu de ce rapport.
Merci pour la question. Je vais préciser. Le transfert des équipements concerne les trois précédents rounds électoraux, donc de 2003 à 2011, pour un montant de 417 millions de dollars. Dans ces équipements, il y a des équipements informatiques, électriques, du matériel roulant, du matériel du bureau, etc. Ces matériels vont pouvoir servir pour le prochain cycle électoral. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas, comment dirais-je, un cadeau qu'on fait à la CENI avant que toutes les questions préliminaires ne soient réglées pour le processus électoral qui est engagé maintenant. D'accord ? Donc ça concerne les trois derniers processus électoraux qui ont lieu, scrutin. Oui, merci.
Merci. Maintenant, c'est la fin de cette conférence de presse. À la semaine prochaine.